jusqu'à 11h, vous écoutez les week-ends de Paul Oud, votre magazine de la fin de semaine. Au réseau Cogeco, vous écoutez le hockey du Canadien. Voici Martin McGuire. Bon. Danny Dubé.
Bonjour Martin McGuire.
Bonjour Paul. Ça, vous allez entendre ça samedi soir, le 1er août, avant le début du match qui opposera les Pingouins et le Canadien, qui marquera le 1er août, donc le début officiel des activités. Après près de un peu plus de 150 jours de pause que la Ligue nationale aura pris pour régler un protocole d'entente au retour et surtout aussi prolonger une convention collective jusqu'en 2025-2026.
Et je voudrais que tu nous confirmes effectivement que nous serons toujours le diffuseur des matchs du Canadien.
Oui.
C'est important ça.
C'est important parce que, écoutez, pour vous faire une, comme on dit chez nous, une longue histoire courte, là, il y avait quand même des choses à voir pour cette fameuse ronde de qualification là, qui s'ajoutait donc à tout le package régulier. Là. Alors là, tout ça s'est réglé au cours de la dernière semaine. Là, on peut donc vous assurer que la seule façon, radiophoniquement parlant, que vous aurez de suivre le Canadien, ce sera encore avec nous à Cogeco.
OK. La relance des activités, Martin, donc le 1er août, mais allons-y par étapes. La prochaine date importante dans ce plan de relance, c'est lundi qui vient, le 13 juillet.
Le 13 juillet qui marque l'ouverture des camps d'entraînement. C'est pour ça que l'entente a été officialisée hier. Je pense qu'on voulait pas étirer plus loin que ça là, pour risquer de mettre en péril le début des camps. Et Yannick, ensuite, le 26 juillet prochain, les équipes vont se diriger vers les deux villes bulles, soit Edmonton pour les équipes de la Conférence de l'Ouest et Toronto pour les équipes de l'Est. Il y aura également des matchs hors concours les 28 et 30, des matchs hors concours qui permettront à tout le monde de se remettre un peu en forme. Là. Est-ce que ça va être intéressant de savoir si, par exemple, le Canadien et les Pingouins, étant donné qu'ils sont dans la même ville, s'ils vont s'affronter en match pré-saison ou si on va privilégier d'autres affrontements, par exemple, Canadien Maple Leafs, si on ne fera pas d'affrontement, si on ne croisera pas les équipes qui vont s'affronter lors de la ronde de qualification, ça va être à suivre. Les séries vont commencer donc le 1er août prochain avec les premiers affrontements. La phase 2 de la loterie Lafrenière, ce sera le 10 juillet, donc à la conclusion de la première phase de série où on aura 8 équipes éliminées, il y aura donc la loterie. Et tout ça pour nous mener là jusqu'au couronnement d'un champion. La date ultime pour un 7e match serait le 4 octobre prochain et la séance de repêchage suivra les 9 et 10 octobre.
Et là,
ce sont les dates importantes.
Et là, il y aurait congé pour les joueurs, mettons en novembre, et la prochaine saison, qu'on espère complète, ne débuterait que début décembre.
Exactement. Ça, Paul, c'est intéressant parce que dans l'entente actuelle, on n'a pas de date, mais on en a vu circuler des dates. Là, on disait que le camp d'entraînement pourrait débuter aussi rapidement qu'à la mi-novembre, pour commencer le 1er décembre. Mais comme l'entente actuelle ne prévoit pas de date de reprise des activités, et ça, c'est fort simple, la raison pour laquelle on peut pas confirmer de date, Paul, c'est que le secret le moins bien gardé autour des gens de la Ligue nationale, que ce soit du côté des joueurs ou des propriétaires, là, c'est que la prochaine saison ne pourra pas commencer sans qu'on puisse accueillir des spectateurs dans les gradins. C'est essentiel, économiquement parlant, pour la Ligue nationale de pouvoir rentrer du monde dans les arénas. Et rentrer du monde dans les arénas, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on ne pourra pas faire ça avant l'arrivée d'un vaccin. Et j'ai l'impression que, théoriquement, on voudrait commencer la prochaine saison le 1er décembre.
Sur l'aspect sanitaire médical, à moins d'une très grande surprise, Martin, on ne pourra pas compter sur un vaccin approuvé et surtout distribué. C'est bien beau de dire qu'on a trouvé un vaccin qui sera efficace, qui sera approuvé par les organismes de santé, comme Santé Canada. Mais encore faut-il produire des centaines de millions de doses et les administrer.
Exactement. Et dans la Ligue nationale, Paul, on est assez conscient d'une chose, c'est que si on permettait, par exemple, à des amphithéâtres de se remplir à quoi, 25-30% pour les matchs, ce serait déjà ça de prix. Mais la Ligue nationale ne peut pas faire ses frais avec 20-25-30% de spectateurs dans les arénas. Alors là, on a fait un deal avec les joueurs qui fait en sorte que, économiquement parlant, Paul, la première année de cette convention qui nous mène à 25-26 fait en sorte que les propriétaires assurent un niveau de revenus aux joueurs, 81,5 millions. Mais par la suite, là, le plafond salarial va être maintenu par les revenus. Il faudra que ça revienne à 4,8 milliards. Ça, c'était les revenus estimés cette année. Je ne veux pas vous abasourdir avec des dollars puis des chiffres, là, mais c'est simplement pour appuyer, Paul, sur le fait que pour la prochaine saison, la Ligue nationale va avoir besoin de spectateurs. Sans ça, ça va devenir très, très difficile et surtout économiquement très périlleux pour la Ligue.
OK, Martin, pour revenir au plan de relance de la Ligue nationale, oui, pour compléter la saison 2019-2020, on sait que chaque équipe pourra avoir 58 personnes dans les villes-bulles, dont 31 joueurs dans la formation, c'est bien ça?
Mm-hmm. Okay. C'est 52 personnes et 31 joueurs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que jusqu'à tard jeudi et même vendredi matin, là, il y avait encore des négociations de coulisses parce qu'il y a des équipes qui ont fait la démonstration qu'à 52 personnes, en bon québécois, ils sont un peu short-staff.
Ouais.
Mais je pense que tout le monde va s'accommoder avec le 52 personnes déjà, et les 31 joueurs.
Déjà à 58, on disait que c'était peu de monde à amener dans les villes-bulles, mais 31 joueurs, est-ce que Max Domi fera partie de la formation?
Ça, c'est l'autre question. Ça, c'est la question qui reste en suspens chez le Canadien de Montréal. J'ai parlé à des gens au cours des dernières heures, là, des gens qui se soient mêlés un peu dans le dossier ou à l'extérieur complètement, qui ont quelques connaissances médicales. Là. Et un joueur atteint de diabète de type 1 comme Domi, qui est en parfaite santé, comme c'est le cas pour lui, qui contrôle bien sa situation, son diabète, pour certaines personnes, n'est pas plus à risque que quelqu'un d'autre. Par contre, si lui, il attrape la COVID, à ce moment-là, est-ce que son système immunitaire est plus fragile qu'un autre? Est-ce que la dégradation de sa santé pourrait être plus rapide? Ça, c'est pas prouvé par personne au moment où on se parle.
Ouais.
Sauf que, tu sais, ça va devoir être pris en considération, cette option-là, autant par les médecins du Canadien, les autorités de la Ligue et aussi par Max Domi et son entourage. Ça, c'est la prochaine étape de savoir s'il sera là.
Tu vois, Yannick nous a parlé d'un cas de joueur des Flames de Calgary, Hamonic, qui a décidé, lui, de passer. C'est-à-dire, je joue pas cette année pour des raisons familiales.
Mm. Oui, c'est un joueur, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de problèmes de santé là, au cours des dernières années. Il a eu de la difficulté à jouer des saisons complètes. Il y a eu des commotions cérébrales, il y a eu beaucoup de problèmes aux genoux. Écoutez, peut-être que lui, dans sa famille, là, il y a des éléments qui lui permettent de croire qu'il serait à risque plus qu'un autre. Alors, c'est le premier. Et on s'est dépêché de dire du côté de l'association et du côté de la Ligue nationale là, que les joueurs qui prendront ces décisions-là, il n'y a pas de préjudice envers eux. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas considérés comme des lâcheurs, là, puis ça ne devrait pas les traîner lorsque ces joueurs-là se chercheront de l'emploi. Mais ça reste une chose, il y a une réalité. Si ces joueurs-là prennent des dispositions comme ça, c'est qu'ils sentent une certaine fragilité. Alors, comment sera interprétée la fragilité de la part des décideurs d'équipe quand ces joueurs-là viendront sur le marché? Ça, c'est une autre grande question, mais j'espère pour eux qu'ils ne seront pas pénalisés.
Et pour mentionner également que, les Villebulles Toronto et Edmonton, rappeler que les finales d'association et la finale de la Coupe Stanley qui seront présentées dans une seule ville, c'est celle d'Edmonton.
C'est celle d'Edmonton. C'est la ville qui présentait, là, dans toutes les villes qui ont voulu avoir ces fameuses séries, autant dans l'Est que dans l'Ouest, là, c'est la ville qui présentait le moins de risques. La ville d'Edmonton et la ville de Vancouver présentaient quelque chose là, qui était ce qu'il y avait de moins risqué en termes de cas de COVID, en termes de facilité de test, en termes de proximité d'installation. C'est pour ça qu'on va à Edmonton. Puis même le pouvoir politique à Edmonton s'en est mêlé. Ils ont fait de fortes représentations auprès de la Ligue. Et ils avaient un atout dans la manche qui s'appelle Wayne Gretzky. qui est une personne importante maintenant de l'organisation des Oilers, et ça n'a pas nuit.
Martin, je suis curieux de savoir, allez-vous avoir accès, les médias, aux installations à Brossard lorsque le camp va s'avancer?
Oui, oui, à Brossard, oui. Là, donc, le camp d'entraînement qui commence lundi matin, là, nous aurons accès, mais nous n'aurons pas accès aux joueurs. C'est-à-dire que on pourra les regarder, pratiquer, on pourra surveiller les entraînements, mais les points de presse qui vont suivre, là, il y a Marc Bergevin qui va parler lundi et quelques joueurs qui seront rendus disponibles. Tout va se faire par vidéoconférence. Nous serons physiquement dans le même édifice, mais nous ne serons pas dans le même secteur. Mais on a vraiment créé des bulles autour des joueurs de la Ligue nationale. Si vous saviez comment c'est compliqué à l'interne, là, comment c'est sévère, là, il n'y aura pas de contact média-athlète.
Mais place-toi dans le contexte du commentateur que tu es.
Oui.
Et arrivons au match ultime où on couronne le gagnant de la Coupe Stanley. Prenons un exemple au hasard. Les Blackhawks soulèvent la Coupe.
Oui, c'est un exemple au hasard, Paul.
Au hasard. Et il n'y aura aucun bruit, bruit. Il n'y aura rien. Mais est-ce que vous allez être renforcé par des effets sonores?
Oui.
Quoi?
On nous a dit, là, du côté de la Ligue nationale, je pense que les choses vont s'enclencher vraiment de façon concrète dans les prochaines heures, maintenant qu'on a un deal signé, là. Mais ce qu'on nous a dit, c'est qu'on pourra fournir un certain son d'ambiance qui viendra de l'aréna. Et les gens de la Ligue nationale, les gens de production de la Ligue travaillent aussi avec des gens à Toronto et à Edmonton pour essayer de créer une ambiance sonore artificielle, mais quelque chose qui va faire en sorte que quand tu vas être assis devant ton téléviseur ou quand tu vas être assis dans l'auto à écouter le 98.5, le réseau Cogeco, tu vas avoir vraiment l'impression d'écouter un vrai match de hockey. Il ne s'agit pas de fabriquer des spectateurs, mais c'est de créer une ambiance sonore qui va s'en rapprocher un petit peu.
Merci. Déjà, les mauvaises langues disent que, de toute façon, la saison 2019-2020 du Canadien va se terminer le 5 août prochain.
Oh, ça, c'est effrayant de dire ça. C'est épouvantable de dire ça. Parce que moi, je vais avoir... Vous savez quels sont les deux clubs qu'on espère voir en finale? On ne sait jamais, Martin, on ne sait jamais.
Ben, Paul, écoute, quand tu regardes comment on a bâti le calendrier, là, le Canadien et les Pingouins jouent le premier soir, puis les Blackhawks et les Oilers jouent également le premier soir.
OK, alors mettons. On va s'arrêter là-dessus, Martin. Merci beaucoup.
Oui, ça fait plaisir.
On a bien hâte de te retrouver avec Danny.